I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
What time is it?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 465 du podcast Touchdown Actu. Alain Mathé, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine une nouvelle fois pour débriefer tout ce qui s'est passé en NFL. Raphaël Masmejean est là, bonjour Raphaël.
Salut à tous.
Lucas Vola est également là, bonjour Lucas.
Salut messieurs, salut tout le monde. On a déjà le droit de se dire joyeux Noël ou pas?
Oui, on enregistre le 21 décembre, tu peux.
Ouais, bon ben joyeux Noël à tous alors.
Joyeux Noël, pareil. En effet. On a une émission le 23 aussi, donc nous, on pourra le redire le 23 avec Raphaël. On va souhaiter plein de joyeux Noël à tout le monde. Mais en effet, bonne fête de fin d'année à tous et à tous ceux qui sont en vacances, d'ailleurs, puisque les vacances scolaires ont commencé. Vous avez des vacances un petit peu, messieurs, non?
Bientôt.
Bientôt, bon.
Pareil.
Vous allez voir le Père Noël au Pôle Nord? Ah ben non, il doit y avoir les restrictions sanitaires. On n'a peut-être même pas le droit d'aller voir le Père Noël au Pôle Nord.
Il doit être vieux maintenant.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas expert en la matière, je suis plutôt Team Grinch, moi, tu sais, je n'aime pas les fêtes de fin d'année, donc voilà. Je juge tous les gens qui mettent les photos de leur pull moche sur Internet en ce moment, par exemple, c'est mon grand loisir. Voilà pour la minute négative. Cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport. D'ailleurs, avec les fêtes qui approchent, si vous aimez Noël, vous pouvez profiter de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. Vous pouvez y aller sur leur site web, évidemment, mais aussi dans les magasins pour les achats de dernière minute, parce que là, vous nous écoutez maintenant, on est dans le rush. Hein. C'est le moment de la grande bataille finale rangée dans les centres commerciaux, les uns sur les autres, coup de coude dans le nez pour avoir les derniers trucs. Enfin bon, vous la connaissez, c'est tous les ans pareil. Les Cardinals qui piquent du nez, les Chiefs qui flambent, les Buccaneers qui souffrent, c'est le débrief de la semaine 15.
Hey, it's Hunter Renfrow from the Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast.
Hunter Renfrow, on y viendra, mais on va commencer par le match surprise de la semaine. Une opposition incroyable entre les Lions et les Cardinals. Victoire 30-12 des Lions qui sont, je peux vous l'assurer, pour la première fois en ouverture de ce podcast cette année. Ça je suis sûr et certain qu'on ne les a pas fait. Deuxième défaite pour les Cardinals et pas la moins surprenante. Lucas, tu étais sur le résumé de ce match pour le site. Je m'étais dit, je vais lui mettre un truc facile qui sera écrit facilement. Comme ça, il peut se reposer parce qu'il fait les matchs de la nuit. Finalement, tu as eu un des matchs événements de la semaine et tu nous as dit pendant la rencontre, le plus fou, c'est qu'il n'y a pas photo.
Ah, clairement, j'avais du mal à y croire. J'avais du mal à croire à ce match parce que Déjà, si on m'avait dit que les Lions allaient battre Arizona avant le match, je ne l'aurais pas cru comme tout le monde. Et en plus, je me serais dit, bon, à la limite, je veux bien le croire, mais ce serait sur une dernière action, ce serait sur quelque chose d'exceptionnel, ce serait à l'arrache. Et en fait, en effet, il n'y avait vraiment pas photo, que ce soit en défense ou en attaque. Et ils se sont fait, les Cardinals se sont fait dominer sur les lignes. Et ce n'est pas une nouveauté parce qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière. Ils s'étaient fait dominer. Là, ils se font dominer de nouveau face à Détroit, là où on n'attendait vraiment pas. Kyler Murray a été vraiment mis en difficulté. Il a été sous pression. De l'autre côté, la ligne offensive de Détroit, qui n'a pas toujours été très bonne, a été très très bonne à maîtriser le pass rush des Cardinals, a vraiment fait le travail, et ça a donné un match quasiment à sens unique, ou en tout cas, et le score n'est pas trompeur, je crois que c'était 32, le score n'est pas trompeur, il est vraiment révélateur de ce qui s'est passé. Détroit a été vraiment la meilleure équipe de loin sur ce match.
Bon, après, il faut dire qu'ils sont tombés sur le Cliff Kingsbury killer, parce que Jared Goff, c'est 4 victoires, 0 défaite face à Cliff Kingsbury maintenant. On rappelle qu'il jouait avec les Rams avant. 21 sur 26, 216 yards, 3 touchdowns. Craig Reynolds, 112 yards au sol. Amon-Ra St. Brown, 8 réceptions. Charles Harris partout en défense, hauteur d'un sac et demi. Raphaël, on va commencer par les Lions quand même. Il faut leur rendre hommage. Ça construit par les lignes aussi, selon toi ?
Oui, en tout cas, cette victoire, c'est clairement le cas. Et même globalement, leur choix finalement à la draft d'avoir pris Penny Sewell, le left tackle, plutôt qu'un autre joueur style offensif pour donner des cibles à Jared Goff ou quoi que ce soit, montrer que l'ambition, c'était d'abord de solidifier les lignes. Tu as eu des arrivées aussi en intersaison sur la ligne défensive. Donc, ça confirme que c'était en tout cas leur philosophie. Est-ce que ça porte déjà ses fruits ? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, ils semblent avoir la ligne directrice et pour le moment, ils s'y tiennent et il y a des signes encourageants à ce niveau-là. Donc pour eux, c'est déjà une belle récompense à ce titre.
Il y a des petits éléments pour le futur en plus, parce que Craig Reynolds est jeune, Amon-Ra St. Brown est jeune, Charles Harris a toujours que 26 piges.
Oui, il y a une équipe avec quelques jeunes joueurs. Effectivement qui peuvent se développer avec le bon quarterback. Est-ce que ça sera Jared Goff ou pas, ça sera une autre question encore à trancher du côté de Détroit cette intersaison, mais ouais, il y a des signes. Puis au final, le fait que toute la saison ils aient semblé en progrès et jamais totalement battus, là aussi, contrairement à d'autres équipes du bas de tableau où on a l'impression de ne pas avoir de progression après 15 semaines, côté Détroit, malgré tout, je trouve que je ne vais pas dire que de match en match, ils sont meilleurs, mais pas tellement loin non plus dans cette idée. Je trouve qu'il y a quand même du progrès, quoi.
Ouais, ça donne de la confiance pour le coaching, notamment, d'avoir enfin une vraie victoire nette et pleine. Lucas, toi, tu as vu aussi des éléments qui peuvent faire dire que ce n'est pas un one-shot, quoi.
Oui, parce qu'en plus, ils jouent ce match sans Hawkinson, sans DeAndre Swift, sans Jamal Williams. Et ils font, comme je l'ai dit, un bon match. Donc, si on rajoute en plus trois skills players qui sont pas les plus mauvais en plus depuis le début de la saison, parce que Hawkinson, il fait ce qu'il peut. Les deux running backs sont plutôt bons. Et en plus, voilà, si on les rajoute derrière cette ligne, alors ils ont eu un bon jeu au sol avec Reynolds, tu le disais, mais si on rajoute ces deux running backs qui sont censés être encore meilleurs, oui, il y aura toujours cette question du quarterback. Et je pense que c'est toujours ça le problème qu'il y aura à Détroit. Mais ils sont tellement loin du Super Bowl, des playoffs, de tout ce qu'il faut. Qu'il y a tout le reste à améliorer et ça donne des bons éléments, comme tu le dis, de progression, de confiance. Il reste quelques matchs, pourquoi pas aller en chercher une ou deux. Certainement que les équipes qui sont devant eux, enfin, ou derrière, selon comment on voit la draft, n'auront pas forcément besoin d'un quarterback en plus, parce qu'on imagine les Jaguars, peut-être Houston, et encore, on imagine peut-être New York. Donc en fait, même s'ils gagnent quelques matchs, ça ne devrait peut-être pas les mettre en difficulté dans l'idée d'éventuellement prendre un quarterback. Bon, ça sera dans plusieurs semaines, mais il faut gagner en tout cas les prochains matchs, ou essayer de les gagner.
Bon, pour les Cardinals, ça a fait 0 sur 4 dans la zone rouge. Est-ce que l'absence de DeAndre Hopkins, notamment, se paye pas largement à ce niveau-là ? Je vois Lucas hocher de la tête de manière très affirmative.
Ah oui. Pour moi, Raph, on dira certainement, je ne sais pas s'il dira, il sera d'accord avec moi, mais pour moi, ça a été vraiment une absence notable. Après, ils auraient pu gagner sans lui, ils auraient dû gagner sans lui quand on voit l'équipe qu'il y a, mais ça fait peur surtout quand on sait qu'ils ne devraient pas être de retour avant le match de NFC, s'ils arrivent jusque-là, enfin, la finale de NFC. Ouais, franchement, il manque beaucoup à Kyler Murray, notamment dans la red zone, pour marquer des points. Ça va être curieux sur les prochaines semaines.
Ouais. Raphaël, d'accord du coup ?
Oui, d'accord. Il manque forcément à ce niveau-là. Je pense même qu'il manque sur l'ensemble d'un drive, il manque un DeAndre Hopkins qui attire sur lui de la défense, qui a une capacité, on l'a vu depuis le début de sa carrière, une capacité aussi à faire des réceptions contestées. C'est vrai que Kyler Murray, des fois, pouvait se reposer un peu sur Murray sans forcément se dire OK, enfin, sur Hopkins, sans forcément se dire Hopkins est tout seul, mais juste Hopkins va l'avoir parce qu'il sait remporter ces ballons-là. Là, il n'a plus forcément ça. En plus, Edgy Green, qui était venu un peu pour être un numéro 2, a une attitude, où, je dirais peut-être pas jusqu'à nonchalante, mais bon, sur l'interception, il ne se bat pas beaucoup pour empêcher l'interception, par exemple. Enfin, je l'ai trouvé un peu laissé aller. Donc finalement, ouais, il se retrouve un peu en difficulté. Et puis même, Kyler... Donc oui, je pense que l'absence de DeAndre Hopkins est vraiment préjudiciable et il faut vite, du côté de Cliff Kingsbury, trouver une solution pour pallier à ça.
Après Edgy Green, c'est plus Edgy Green, quoi, on va dire.
Non, mais je trouve qu'il y a une différence entre être un vétéran qui apporte ce qu'il peut apporter, être un vétéran, tu as l'impression que sur certains snaps, il est là un peu semi-touriste, on va dire, tu vois. Bon, voilà.
La défense n'a pas fait la différence non plus. C'est vrai qu'elle l'avait fait parfois dans certains matchs. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter maintenant pour les Cardinals? Parce que évidemment, on a en tête, l'an dernier, ils avaient aussi très bien commencé, ils se sont écroulés, ils ratent les playoffs. Je ne dis pas que c'est pareil, hein. Justement, c'est la question. Est-ce qu'il y a des raisons de voir des similitudes, quoi?
Sur les lignes, moi, ça m'inquiète un petit peu. Sur les lignes, ça m'inquiète un petit peu parce que ce n'est pas du one-shot. Ils auraient pu passer à travers complètement et on se serait dit, bon, bah, ils sont passés à travers, c'est une semaine. Maintenant, c'est pas évident. Là, peut-être que quand vous écouterez ce match, les Rams auront déjà joué. Ils seront peut-être revenus à égalité avec les Cardinals en tête de cette conférence, de cette division. Il reste un calendrier un peu compliqué pour les Cardinals avec les Seahawks, les Cowboys notamment. Je suis un petit peu inquiet dans le sens où on voyait cette équipe meilleure de NFL, tout simplement. C'est plus le cas.
Après, ouais, ça dépend comment ils utilisent un peu, j'ai envie de dire, ces trois derniers matchs pour se relancer. Pas tellement d'un point de vue comptable, parce que sincèrement, même avec trois défaites, ils ont des chances d'aller en playoff, même en perdant les trois prochains. Quand tu regardes le 7e en NFC, il y a peu de chances que le 7e en NFC arrive à prendre 3 matchs et déborde les Cardinals. Donc, ils vont aller en playoff, à mon sens. Maintenant, la question, c'est est-ce que dans ces 3 matchs, tu arrives à te rassurer, à relancer une dynamique ou tu continues à t'enfoncer avec des défaites et le premier tour de playoff est dans cette même lignée. Ça fait 2 matchs où ils sont mauvais dans à peu près tous les secteurs de jeu. Faudrait pas qu'ils arrivent en playoff avec 5 mauvais matchs. Voilà, maintenant pour moi, c'est là où on va voir si Cliff Kingsbury a pris du coaching ou pas. En fait, c'est pour moi, c'est l'épreuve test, elle est là. Et...
Colts, Cowboys, Seahawks, hein, les 3 prochains, donc c'est vrai que ce sera pas des matchs, des matchs faciles. Est-ce que vous les voyez cuits? Est-ce que vous les voyez lâcher ces 3 matchs ou 2 ou 3? Moi, je vais dire, je pense qu'ils en prennent, qu'ils se relèvent et qu'ils en prennent 2 sur les 3. Allez, je suis optimiste.
Moi, je vais dire Colts, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est le match de jeudi. C'est le match de samedi, pardon. C'est le match de samedi. C'est pas facile de prendre les Colts maintenant, surtout quand on sait que c'est les lignes leur force. On va en parler peut-être. Je dirais 1/2 parce qu'ils vont peut-être jouer les Seahawks qui auront besoin de gagner pour rentrer en playoff aussi. Puis non, playoff comme le disait Raph certainement, mais d'aller jouer à Tampa le premier match des wildcards ou recevoir New Orleans, c'est pas la même chose.
Ils sont pas cuits, mais ça sent pas bon, si je vous écoute en tout cas.
Dur à dire. Sincèrement, depuis le début de la saison, on a tellement d'équipes irrégulières qui ont des coups de mou, qui se relancent, qui ont des coups de mou, que j'ai du mal à me projeter. J'ai du mal à me projeter chez eux. Ouais, on est entre le mi-cuit et le pas cuit.
Mi-cuit ou pas cuit, mais ils sont pas cuits, quoi, les Cardinals.
Non, voilà. Enfin, à mon sens, pas encore, mais...
Ça marche. Buccaneers 0, Saints 9. Oui, ça fait un score. Je sais pas de quel sport, d'ailleurs, parce que 9-0, il n'y a pas de...
Bref, ça avait commencé à 6-0. Je voulais mettre un petit titre de tennis, mais...
Bah oui, c'est ça. Bon, en tout cas, ça fait pas très score de foot US, mais c'est la première fois depuis 2006 que Tom Brady termine un match à 0 points. C'est seulement la 3e fois de sa carrière. Je n'ai pas le nombre de matchs qu'il a joué, mais je vous laisse imaginer qu'il y en a eu beaucoup et que ça fait pas beaucoup 3 fois dans sa carrière. Performance défensive d'élite, hein, quand même, de New Orleans. Brady sous pression sur 25,5% des snaps, 4 sacks, une interception, un fumble. C'est pas que les blessures à Tampa, c'est aussi New Orleans.
Ouais, pour moi, effectivement, c'est pas que les blessures, parce que ça fait 4 matchs de saison régulière où à chaque fois la défense de New Orleans muselle Tom Brady. Donc, en début de saison, ils l'ont fait alors que Godwin et Evans étaient déjà sur le terrain. Donc, ils ont un vrai savoir-faire pour embêter Tom Brady. En plus, je ne sais pas exactement quelle est la recette, parce que quand tu la vois sur le terrain en tant que telle, elle a l'air simple. Il rush Tom Brady à 3 ou 4 joueurs maximum, pas plus de joueurs, et ça fait la différence. Ce qui est étonnant, c'est que quand d'autres équipes dans la Ligue essayent de le faire, ça ne marche pas forcément face à cette ligne offensive de Tampa Bay, en plus qui est loin d'être une des plus mauvaises et qui est globalement solide. Mais face à New Orleans, ça passe toujours. Je sais pas, ça marche. Et franchement, ils masquent pas grand chose. Il y a pas des blitz masqués avec des safeties qui arrivent et tout. C'est vraiment Davenport et Cameron Jordan en permanence qui lui rentrent dedans. Et donc, pour moi, il y a une part de pas de mystère, mais bon.
La recette, elle est simple en fait. Hein. C'est comme tu dis, c'est la recette, on la connaît depuis 20 ans en fait. Contre Tom Brady, c'est juste qu'on a l'impression, comme tu le dis, que personne n'arrive à le faire, parce que la recette, c'est le saquer. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, même quand on le saque pas, c'est lui mettre la pression, le toucher, le sortir de son rythme, l'agacer. On l'a vu agacer, on l'a vu. Alors il sortira pas de son match, c'est Tom Brady, mais il va être frustré, le frustrer, voilà, c'est le mot que je cherchais, parce que et les New Orleans, ils sont capables de le faire à chaque fois qu'ils jouent contre lui, et en tout cas depuis 2 ans, et c'est vrai qu'il y a très peu d'équipes qui arrivent à le faire.
Je crois qu'une des clés aussi, au-delà de la pression quand même qu'ils arrivent à mettre à juste 3 ou 4 joueurs, qui est fondamental face à une équipe comme Tampa Bay qui a autant de cibles, c'est que globalement ils défendent quand même très bien Rob Gronkowski, je trouve, du côté des Saints. Souvent ils arrivent à un peu casser le rythme entre Tom Brady et Rob Gronkowski, qui est un peu souvent là. Finalement, quand Brady ça va un peu plus mal, il a toujours à minima Rob Gronkowski, avec lequel il a une sorte d'alchimie et d'osmose qui fait qu'il se repose toujours, et à réussir à casser ça en plus de mettre la pression, je crois que c'est vraiment le palier un peu plus dur à passer du coup encore. Et là-dessus, la défense que peut faire Malcolm Jenkins sur Gronkowski pendant une partie du match, en mon sens, c'est assez déterminante pour le coup.
Oui, je vous remercie pour cette analyse, parce que je ne voulais pas qu'on se limite à Chris Godwin, Mike Evans, Leonard Fournette sont sortis sur blessure, ce qui est totalement vrai, hein, mais on a aussi parlé de Jared Goff qui a gagné un match en lançant à Amon-Ra St. Brown il y a 2 minutes. Donc a priori, le boulot, il est aussi énormément défensif des Saints, qui n'ont pas beaucoup plus de receveurs hein, d'ailleurs au moment où on se parle, et pas plus de quarterback, surtout pas.
C'est pour ça qu'ils mettent que 9 points aussi. Hein.
Voilà, donc,
et puis ils jouent face à une grosse défense.
Donc voilà, il y a une énorme performance défensive, il y a évidemment ses blessures, Chris Godwin, ses saisons terminées. Mike Evans, Leonard Fournette, ça devrait revenir plus ou moins rapidement. Lavonte David aussi est sorti sur blessure. J'ai moins de nouvelles d'ailleurs sur le diagnostic sur Lavonte David. Ça, évidemment, ça joue. Après, en effet, les Saints ne marquent que 9 points. Donc, il fallait cette performance défensive assez incroyable. Seulement 3 field goals, moins de 200 yards ou à peine 200 yards en attaque. Ils ne peuvent pas tenir. Alors, ils sont sur la route des playoffs, hein, mais ce n'est pas tenable comme style de vie.
Non, c'est pas tenable, c'est difficile. Alors après, ils joueront pas la défense de Tampa toutes les semaines, parce que je veux dire aussi, Tampa Bay a fait une grosse partie. Parce que, comme on le dit, si Tom Brady, avec la performance qu'il fait, est encore dans le match jusqu'à quasiment la fin, c'est parce que sa défense, elle l'a mis en bonne position, elle a été bonne. Mais c'est vrai que du côté de New Orleans, en attaque, c'est compliqué. Alvin Kamara a bien été maîtrisé. On avait 2 des meilleures défenses contre la course de la Ligue, et ça s'est vu dans ce match. Donc c'est vrai que New Orleans, ça semble compliqué. Maintenant, ils sont à 2-0 contre Tampa Bay, ils ont battu Green Bay, ils ont battu les Patriots. Contre les grosses équipes, ils arrivent toujours à sortir quelque chose. Je les enterrerai pas.
Après, vas-y Raphaël.
Non, je les enterrerai pas forcément, mais sur 3 matchs de playoffs, ça me semble beaucoup, tu vois.
Ah oui,
non, mais là, la question n'était même pas là.
Aller faire une surprise à l'extérieur sur le premier match, pourquoi pas, tu vois, face à une équipe des Cardinals qui est un peu en doute, face à une équipe. Enfin, pourquoi pas aller sortir une surprise comme ça, une équipe des Rams qui, des fois, peut sembler un peu déconcentrée, un peu trop sûr d'elle. Ouais, voire Tampa Bay, mais après,
on dit ça, ils sont à 7 victoires, 7 défaites, ils sont 8e au moment où on se parle, donc ils ne sont pas tout à fait qualifiés, mais ils sont dans les trucs, ils sont dans les clous. Après, je suis obligé de... Ça me paraît récurrent, mais c'est un scandale, Tyson Hill, au bout d'un moment. C'est pas un quarterback. À quel moment, je suis désolé, j'ai dit la dernière fois, oui, pourquoi ce serait mieux que Trevor Siemian. Je réitère, en quoi c'est mieux que Trevor Siemian. Siemian a un meilleur pourcentage de passes complétées, il a 9 touchdowns et 3 interceptions. Hill, c'est 2 touchdowns, 5 interceptions, et c'est 13/27. Enfin, c'est pas un quarterback.
Ouais.
Je comprends plus, quoi. C'est Trevor Siemian, ils ont fait jouer Nick Mullens, les Browns, hier. Ça ne me choquerait pas de voir Nick Mullens plutôt que Tyson Hill. Hein.
Oui, mais pour le coup, il n'est pas là.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais des quarterbacks un peu lambda comme Nick Mullens ou machin, t'en trouves 3-4 dans la rue en ce moment à chaque fois en NFL. Ils sont interchangeables, des Mike Glennon, des Nick Mullens, des Jack Fromm, des ce que tu veux, tu vois. Un grand blanc qui lance le ballon, il y en a plein. Mais voilà, mais donc en soi, Trevor Siemian est le Nick Mullens de New Orleans. Je vois pas à quel moment c'est moins bien que Tyson Hill. Hein. Voilà.
Ouais.
On les voyait monter en puissance quand même, les Buccaneers, pour finir sur eux. Finalement, ils sont plutôt en difficulté sur ce match. Est-ce qu'on dit ils jouaient les Saints, donc hop, on met de côté, ou alors on fait quand même un peu attention avec toutes ces blessures, avec, parce qu'au final, bon, la défense fait son boulot. Et l'attaque est tombée sur une défense qui la maîtrise bien, donc c'est peut-être pas si grave que ça.
Moi, je suis moins inquiet, par exemple, que pour les Cardinals. Pour moi, c'est vraiment un match à prendre à part. Maintenant, la blessure pour la saison de Chris Godwin va faire du mal, parce que c'était peut-être le meilleur receveur depuis le début de la saison.
Statistiquement, c'est le cas, hein, déjà.
Donc, il faisait beaucoup de bien. Antonio Brown va revenir, mais voilà, il faut voir ce que va donner la santé de Mike Evans, ce que va donner la santé de Leonard Fournette aussi, parce qu'il a manqué. Donc, sur la performance, ça ne m'inquiète pas. Maintenant, il faudrait que tout le monde revienne à 100%, et j'ai du mal à imaginer Brady faire cette performance toutes les semaines.
Ouais, je sais pas non plus, effectivement. C'est dur à dire. Il retrouve quelques défauts de saison régulière de l'an dernier, un jeu au sol en difficulté. Alors là, oui, il y a la blessure de Fournette et un play calling pas toujours très inspiré, hein, où on force Brady à faire plein de passes en profondeur plutôt que de jouer des petits jeux, de faire des play action, tout ça. Et au final, l'an dernier, il règle la mire en playoff et ça déroule. Donc, disons qu'on les a vus avoir les ressources qu'il faut pour changer, pour renverser la table et aller comme il faut en playoff. Donc, encore de la confiance.
Colts 27, Patriots 17, c'était le match du samedi. Les Colts ont couru, beaucoup couru, et ils ont bien défendu en interceptant Mac Jones deux fois. Est-ce que c'est inquiétant pour les Patriots ou bien ça devait arriver? Ils ont gagné 7 matchs de suite. Bah, voilà, quarterback rookie, de temps en temps, tu vas en laisser un de côté et puis bah, il jouera un peu moins bien.
Ouais, moi je le vois effectivement un peu comme ça. Je ne voyais pas New England finir la saison avec une série de 15 victoires, enfin même s'il ne reste pas 15 matchs, mais voilà, enchaîner jusqu'au bout. Ils allaient finir par tomber sur contre quelqu'un, et là c'était une pure guerre de tranchées. Ils ont perdu cette guerre là et à partir de là, quand ils prennent autant de retard avec un quarterback rookie, essayer d'aller chercher le score, bah, il n'a pas encore cette capacité. Il a un play calling qui ne lui donne pas forcément non plus l'opportunité de balancer à tout va pour aller rattraper le score, parce qu'il y a un field goal tapé à un moment plutôt que de tenter une quatrième tentative pas trop loin. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui montrent que c'est encore un peu on y va encore progressivement avec Mac Jones, et que et voilà, je pense que tu as Aaron Rodgers, tu coaches pas cette fin de match de la même manière qu'avec Mac Jones, et c'est normal, mais ça fait partie de la progression de cette équipe, et c'est pas ce match là qui fait que tout est acheté, quoi. Enfin,
oui, je suis assez d'accord. J'avais mis les Colts font passer Mac Jones pour un rookie, parce que c'est vrai que ce quarterback, par rapport à d'autres rookies, et on ne cesse de le dire chaque semaine, mais il semblait le plus mature. Bon, bah, c'est vrai que dans une saison, c'est quand même sa première saison, même s'il y a Belichick, même s'il y a tout le monde, il va faire des matchs où il va faire des erreurs de rookie, c'est normal, sinon c'est Patrick Mahomes, et on est d'accord pour dire que ça ne l'est pas pour l'instant. Donc moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il s'est repris, il fait un beau quatrième quart-temps, il part de trop loin, comme l'a Girafe, mais il fait un beau quatrième quart-temps, il met deux touchdowns, il n'a pas coulé comme on peut voir d'autres rookies dans la même division notamment. Après deux erreurs, il a pas été mauvais.
Mais tu sais quoi, combien même, d'ailleurs, rookie ou pas rookie, mais je crois qu'en NFL, avec la parité qu'il y a cette année, 7 matchs de suite, il y a un moment où tu peux faire un mauvais match, même sans être rookie, en fait. On a vu des bureaux, on a vu des même un Rodgers ou un machin de temps en temps passer au travers et puis lâcher un match. Donc
ouais, bien.
Ça me choque pas, en fait.
T'as raison, puis c'est quand même à noter, si je me trompe pas, c'est sa première interception en red zone de la saison, donc ça montre quand même que jusque-là, il était très propre, que voilà, c'est un rookie, forcément, il y a un moment en red zone, il allait finir par lâcher une interception dans un match, enfin, bon, rien d'inquiétant, à mon sens, pour dans la marge de progression de cette équipe, quoi.
J'allais dire, on n'a pas appris grand-chose sur les Colts. Je ne sais pas si c'était sur ça que tu voulais embrayer.
Ouais, je voulais embrayer parce qu'on parle de quarterback. Moi, sur les deux équipes, le quarterback qui m'inquiète le plus, il est en face. Il y a 5 passes complétées, je crois, sur
12.
Ouais, c'était affreux.
5 sur 12.
Il y a une interception. Il y a 2-3 interceptions qui sont manquées par les Patriots, et c'est leur faute, bien entendu, mais les passes sont vraiment pas belles. Et puis, on a un coach, Raph parlait du play calling, qui ne fait plus confiance du tout. à son quarterback. Alors, c'est sûr que c'est plus facile quand on a une ligne offensive qui est incroyable et quand on a Jonathan Taylor, on donne la balle au coureur plus facilement. Mais quand même, je veux dire, au bout d'un moment, ils auraient pu mettre. Ils ont tremblé jusqu'à la fin parce que le Frank Reich ne fait plus confiance à Carson Wentz. Et franchement, je ne peux pas vraiment l'en blâmer. Il est inquiétant.
Ah, il est. Oui, vas-y Raphaël.
Vas-y, je te laisse.
Non, mais j'allais dire, en effet, clairement, c'est aussi pour ça que je relativisais le statut de rookie d'en face tout à l'heure, parce qu'en effet, je voulais aller là-dessus aussi. Il n'y a pas besoin d'être rookie pour être problématique. Ouais, Carson Wentz, 5 sur 12, 57 yards, un touchdown, une interception. Et on sent qu'il est vraiment là s'il y a besoin d'un mec pour lancer, si Taylor n'est pas dedans, quoi.
Et le touchdown, encore, c'est cadeau. Hein, c'est les fameux touchdowns où c'est un jet sweep. C'est pas une passe.
Ouais.
Raphaël, t'avais quelque chose à ajouter sur Carson Wentz ?
Non, sur Wentz, rien du tout. Effectivement, c'est son incapacité à lancer qui permet aux Patriots finalement d'y croire quand même un tout petit peu malgré l'avance prise. Et sans le coup de génie, on va dire, de Jonathan Taylor, où le moment où les Patriots se rapprochent, où il sort cette course de plus de 50 yards, où tout se joue sur ses appuis parce qu'il a Hightower qui lui arrive dessus et il change de direction au dernier moment pour lui casser les chevilles. Sans ça, à mon avis, les Pats ont une vraie possibilité de revenir. Quoi.
Après, moi, c'est là où je trouvais qu'on n'en apprenait pas beaucoup sur les Cardinals, c'est qu'il y a sur leur qualité, un match énorme de Jonathan Taylor et tout ça. Mais moi, ça reste la même inquiétude au sens où il y a un moment où ça s'arrêtera. C'est-à-dire que ton coureur ne plante pas 180 yards par match en playoff, encore moins 3 ou 4 fois de suite.
Ça paraît dur.
Parce que tu.
Moi, je me suis noté, je suis désolé, je te coupe, mais ça me fait penser quand même aux Titans de 2019. Hein.
Oui, mais qui perdent en finale de conf. Ce que je veux dire, oui. Là, je parlais d'aller au bout. Tu ne peux pas aller au bout avec ça. Quoi.
Ouais, mais je pense que si on est les Colts aujourd'hui, on est content d'aller en finale. Alors, ils diront jamais ça, on n'est jamais content de perdre. Mais, okay. Mais si on leur dit au début de la saison, vous allez en finale de conférence, je pense qu'ils signent tout de suite.
Si l'objectif, c'est ça, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tu passeras un ou deux matchs de playoff max comme ça. Et attention, Tannehill il n'est pas aussi mauvais que Carson
Wentz. Ouais, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire, Lucas, mais j'avais quand même, moi, le sentiment quand les Titans là, font cette finale AFC, qu'il y avait un peu plus de solutions aériennes avec Tannehill, AJ Brown, et beaucoup de play-action, tout ça. C'était un peu stéréotypé même par moment, mais j'ai l'impression que les Colts n'ont pas encore fait ça.
Ah ouais, c'est très très dur de comparer Tannehill à Carson Wentz. Hein.
Ouais, mais par exemple, la ligne offensive, et pour le coup, la ligne offensive des Titans, c'était très forte. Mais les Colts, là, sur ces matchs-là, et ça fait plusieurs semaines qu'on le voit, Taylor, il gagne déjà 4-5 yards sans avoir déjà fait du Taylor. Et ensuite, il fait du Taylor, c'est encore mieux.
Mais tu vois, regarde les Ravens, regarde les Titans ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un coach qui va blinder la boîte, l'autre, il va devoir lancer, et ce sera fini.
Après, ce qui est intéressant, c'est que je trouve, malgré tout, qu'en AFC, à l'heure actuelle, il n'y a pas de grosse défense contre la course.
Non.
Ils ont un coup à jouer là-dessus parce qu'ils auraient été en NFC avec la défense des Saints, des Buccaneers, qui défendent extrêmement bien la course. Ça aurait été peut-être un poil plus... Là, il y a peut-être de quoi aller gratter.
Et puis, ils sont pas sûrs de finir deuxième de cette division. Alors, ils ont un match en moins par rapport aux Titans, on va en parler tout à l'heure. Les Titans jouent, je crois que jouent les 49ers. Alors, il faut beaucoup de choses, mais s'ils finissent champions de leur division, qu'ils reçoivent un match... Bah, c'est... Oui, ils vont pas être au Super Bowl, mais ils peuvent. Moi, j'ai pas envie de les jouer en playoff. Hein,
disons qu'ils viennent officiellement de lâcher un premier tour pour Carson Wentz, parce que ça s'est officialisé avec le nombre de snaps qu'il a joué. Et pourtant, j'ai l'impression qu'ils auront le quarterback le plus flippant des playoffs AFC, a priori, hein, sur les qualités de jeu. J'ai pas la liste définitive, mais à mon avis, il y en aura peu dans lesquels le coach a moins confiance. Chargers 28, Chiefs 34. Superbe match du jeudi. Victoire en prolongation pour les Chiefs. Égalisation en fin de match et touchdown de la victoire pour Travis Kelce. Cette fois, on peut dire qu'ils sont de retour, parce qu'on tâtonne là, avec notre pudeur de gazelle, comme dirait l'autre, depuis 3 semaines. Est-ce qu'ils sont de retour, pas de retour, etc. Bon, là, quand même.
Ouais, ça y ressemble clairement de plus en plus. Il y a toujours 2-3 petits défauts chez Patrick Mahomes qu'on ne voyait pas, qui m'embête un peu. Il y a notamment là, cette quatrième tentative devant la red zone où il lance une passe au sol. Enfin, il lance un truc dégueulasse qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et voilà, donc tu as toujours ces petites choses-là. Mais effectivement, quand tu arrives à trouver Travis Kelce, quand tu arrives à enchaîner des passes comme ça, Tyreek Hill fait un match monstrueux. Et la défense, elle prend... un certain nombre de points parce que l'attaque en face est très très bonne, mais elle fait aussi un nombre de blocs impressionnant. Il y a 4 stops en red zone, il y a un fumble forcé. Enfin, la défense, elle fait le boulot. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'il faut en fait face à une équipe comme les Chargers. Il faut les limiter en dessous de 30 points. Après, c'est à ton attaque de faire la différence. Quoi. Enfin,
Ah bah, c'est sûr que la défense a bien fait son boulot aussi. Il y a 410 yards à la passe pour Patrick Mahomes. Moi, je les trouve toujours ultra dépendants de Kelce et Hill, mais au bout d'un moment, bah, t'es dépendant de tes stars. Mais c'est vrai que pour eux, ouais, mais c'est vrai que pour eux, c'est hypertrophié hein, quand même la dépendance à une cible.
Surtout Kelce, je trouve, parce qu'il il fait pas une mauvaise saison. Il a été présent, mais Kelce, on le disait la semaine dernière, je pense qu'on l'a énervé d'ailleurs, parce qu'il fait 190 yards. Mais je trouve que c'est vraiment… Parce qu'au final, en début de match, il fait pas un match… Moi, j'ai vu ce match après avoir vu les stats. J'ai vu qu'il avait fait 190 yards. Je me suis dit qu'on va le voir partout, tout le temps. Et en fait, il arrive vraiment en fin de match où il est incroyable, faut le dire. Et au final, il y a 13 à 14 au bout de 9 minutes de jeu. Pardon, alors qu'il ne reste que 9 minutes de jeu et l'attaque des Chiefs n'a pas encore explosé. Et là, quand on arrive à retrouver Kelce, comme le disait Raph, et qu'en plus on a Tyreek Hill et qu'en plus on a Patrick Mahomes, et là ça redevient. Et je trouve que du coup, le facteur X, c'est vraiment lui pour moi.
Un mot quand même sur ces quatrièmes tentatives qui ont été le débat du lendemain, notamment dans la rédaction, sur Twitter, partout dans le monde, dans les bars, enfin tout le monde ne parlait que de ça. Que pensez-vous de l'avis de Raphaël Masmejean sur les quatrièmes tentatives? Raphaël est à deux doigts de lancer une émission Twitch. Est-ce que tu es fixé sur le nom? Parce qu'on était parti sur des trucs assez baroques. Moi j'avais proposé quatrième tentative parce que c'était ton leitmotiv, mais tu étais plus parti sur un boomer versus woke. Alors je sais pas si t'es toujours là-dessus, ça pourrait t'attirer des ennuis, mais c'est sur
mais ça va ramener du monde sur la première émission, voilà, je pense.
Avec la campagne présidentielle et tout, là, à mon avis, t'es pas mal. Donc, bref, plus sérieusement, 2 sur 5 sur les quatrièmes tentatives pour Brandon Staley. Faut mourir avec ses idées. Moi, c'est ce que j'ai défendu dans le fauteuil, c'est-à-dire que, a priori, il est consistant, donc pourquoi pas, il en gagne, il en perd. Je suppose que tu vas pas dire le contraire, Raphaël, là-dessus. T'es Team Staley là-dessus.
Non, je veux pas dire le contraire parce que je me suis replongé dans le match de semaine 3 où les Chargers ont battu les Chiefs un peu à la surprise générale. Et dans ce match-là, par deux fois, Brandon Staley joue des quatrièmes tentatives alors qu'ils sont en position d'un field goal. Et ça fait des touchdowns au bout. Et à la fin de ce match, toutes les réactions après, la presse, nous dans le podcast, c'était « Ah, c'est un génie, c'est un nouveau coach, voilà, il a compris comment il faut battre les Chiefs ». Donc, j'ai du mal à me dire que 10 semaines après, le constat n'est plus bon et qu'il faut battre les Chiefs en prenant des field goals. Donc, pour moi, il est dans cette logique-là. Et le côté « faut prendre des points quand c'est possible », dans ce cas-là, dès que tu arrives en position de field goal, tu prends un field goal, même si tu as encore 3 tentatives, parce que tu peux faire un fumble sur ta tentative d'après. Donc, pourquoi pas prendre des field goals en permanence et je pense que tu n'arrives pas très loin. Donc moi, je soutiens. Il mourra sans doute avec. Il ne gagnera peut-être pas le Super Bowl cette année avec. Mais je crois vraiment qu'il crée une dynamique dans cette équipe et qu'il veut casser. J'en suis vraiment convaincu qu'il veut casser le côté loser des Chargers qui colle aux Chargers et qui veut apporter une autre dynamique à cette équipe. Et ça passera pas tout le temps, mais qui veut installer quelque chose. Et donc là, pour moi, c'est la bonne décision.
J'ai été charmé par cet argument un peu de mauvaise foi de faut prendre les field goals dès qu'on est en position. On va convoquer quand même une réunion avec des producteurs et des gens pour voir si on peut te faire un petit plateau avec des bandeaux qui défilent, des trucs comme ça. Tu sais, genre avec ce loser de Bill Belichick n'a pas tenté la quatrième tentative qui défile en bas, tu vois, cette semaine ou des choses comme ça. Lucas, est-ce que toi, tu es d'accord? Donc, encore une fois, il a pris 3 quatrièmes tentatives assez courtes plutôt que des field goals. Et c'est sûr que c'est toujours plus facile de refaire l'histoire après.
Ouais, moi, en fait, je trouve que dans ce débat, c'est un peu trop binaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un peu ceux qui pensent qu'il faut y aller tout le temps et ceux qui disent qu'il faut pas y aller. Et j'ai vraiment l'impression que oui, il faut peut-être plus y aller que ce qu'on voit depuis ces derniers temps, enfin en tout cas des saisons précédentes. Et j'ai l'impression que cette saison-là nous le montre un petit peu plus. Maintenant, je suis pas sûr qu'il faille y aller de manière automatique. Par exemple, si on reprend l'exemple de ce match-là, sur les 3 qui font vraiment débat, la première, je suis totalement d'accord, on gagne pas les Chiefs en tapant des field goals, c'est le premier drive, ou en tout cas c'est leur premier drive, ils sont très près. La deuxième, elle est juste avant la mi-temps, c'est pareil, je suis assez d'accord aussi. La troisième, par exemple, je me dis que c'est peut-être à ce moment-là, les deux premières, il faut peut-être commencer à taper un field goal parce que il y a aussi ce que ressent le coach ou ce que ressent l'équipe. Et c'est vrai que là, on n'y est pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le côté statistique, le côté c'est automatique. Et je trouve qu'on se renferme un peu là-dedans dans ce débat-là, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, je pense.
Ah bah les stats, c'est très confortable après. C'est-à-dire que tu vas avoir la team analytics qui va te dire un truc, tu vas avoir. Mais oui, après, c'est pas absolu non plus, mais on va en reparler dans un autre match pour les conversions à 2 points pour tenter de gagner le match, par exemple. C'est un autre problème. Petite pause et les autres matchs, justement.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Les Browns 14, les Raiders 16, c'était le match qui s'est joué, du coup je m'embrouille dans tout ça, dans la nuit de lundi à mardi. C'était le deuxième Monday Night improvisé parce que ça devait être un Saturday Night à la base, celui-là il évitait le dimanche à tout prix. Bref, les Browns ont donc perdu 14 à 16 contre les Raiders. Ils avaient l'occasion de prendre la tête de la AFC Nord. Finalement, ils se retrouvent dernier de la AFC Nord. C'est vous dire à quel point la division est serrée. Il faut dire qu'il leur manquait 8 titulaires. Baker Mayfield, Jarvis Landry, Jadeveon Clowney et quelques autres. Leur coach n'était pas là non plus, Kevin Stefanski. Donc, tout ce petit monde-là était positif au Covid. Défaite à la dernière seconde sur un field goal. C'est un crève-cœur. Mais c'est presque, pas rassurant, mais avec ce qu'ils avaient, c'est presque honorable, j'ai envie de dire, de s'en sortir comme ça.
Oui, sauf qu'on n'est pas en début de saison. Et en fait, le comptable compte vraiment beaucoup trop maintenant. Et oui, c'est vrai qu'ils se sont battus, ils peuvent gagner, ils doivent presque même gagner. Mais en fait, ce qu'on regarde, c'est qu'on regarde, que, comme tu dis, c'est qu'ils sont derniers alors qu'ils pouvaient être premiers. C'est que ça va être compliqué maintenant pour aller en play-off, même si tout le monde peut y aller encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus au début de saison où on se dit, bon, y a des choses qu'on a vues qui sont bien et qu'on va pouvoir travailler, sur lesquelles on va pouvoir travailler. Là, ça devient plus compliqué.
C'est dur, hein, je trouve, Raphaël, parce que leur défense avait fait le boulot en interceptant Carr en fin de match et puis ils ne tiennent pas sur le dernier drive, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, je trouve malgré tout que c'est un peu dommage du fait du contexte général autour d'eux dans la division. C'est que c'était une occasion en or de prendre la tête de la division. Là, tu perds. En plus, tu as un tie-break en moins face aux Raiders, qui sont aussi un autre concurrent pour une place en play-off. Tu relances les Raiders dans la course aux play-off. Tu te mets en difficulté sur un match où finalement qui était presque prenable je sais pas si c'est en se concentrant un peu plus, mais je doute pas que les joueurs sont concentrés sur le terrain, mais il fallait peut-être proposer, oser un peu plus que ce qu'ils n'ont fait. Ils ont une première mi-temps vraiment très timide offensivement, je trouve, en deuxième ils ont donné un peu plus de ballons à Nick Mullens, essayé de faire un peu plus d'autres choses et ça leur a plutôt réussi. Donc quoi, ouais, à mon sens ils passent quand même à côté d'un match pas facile à l'origine à cause de toutes les blessures qui finalement leur tendaient presque les mains vu le scénario du match. Donc
Il n'y a pas de quoi pavoiser côté Raiders, quand même. Un seul touchdown, 3 field goals contre une équipe aussi décimée. Alors certes avec une bonne défense, mais il n'y a pas de quoi pavoiser quand même.
Ils s'en sortent bien, tu en as parlé sur cette interception d'Eric Carr en fin de match. Ils arrivent à faire le stop défensif, heureusement, mais ils s'en sortent bien. Après, ils sont dans une situation où ils doivent gagner des matchs, ils ont leur destin entre leurs mains, ils vont jouer les Broncos, ils vont jouer les Colts, ils vont jouer les Chargers. C'est trois équipes qui sont potentiellement des adversaires directs pour cette place en play-off. Donc, ils ont au moins la chose de se dire, on a gagné, c'était pas beau, mais au moins, on va aborder ces trois derniers matchs avec le destin entre nos mains. C'est l'essentiel. Après, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Je suis pas sûr qu'ils vont faire des choses bien.
Pas grand-chose vu le roulement d'œil de Raphaël.
Ouais, c'est un peu ça. Disons que vu la dynamique qu'il y avait ces dernières semaines, une victoire pour les Raiders, c'est toujours bon à prendre parce que voilà, ça vient casser un peu un cercle de défaites. Mais après, sur le terrain, vu ce qu'ils ont montré, il n'y a vraiment pas de quoi être optimiste pour la suite. Enfin, être autant en difficulté face à une équipe à qui il manque 10-11 titulaires, Comment tu veux derrière aller battre les Colts qui sont à plein, comment tu veux aller battre les Chargers qui sont aussi à plein, enfin ça paraît.
Ah oui, bah quand voilà. Il a donné la liste des trois là, je me demandais s'ils étaient favoris dans un seul. Broncos éventuellement. Allez, Broncos justement 10, Bengals 15, victoire défensive des Bengals. Est-ce que c'est vraiment significatif d'ailleurs face à une équipe qui a joué une partie du match avec Drew Lock, qui est quand même un des amis personnels de Raphaël. Je vois qu'il rigole dès que je dis son nom.
Non, parce que je viens de repenser à son action là où il court et puis il perd la balle, on lui enlève la balle des mains et le film m'a encore bien fait rire.
Voilà. Je crois que tu as tout résumé. Non, mais voilà. Très bon match de Trey Hendrickson. 5 pressions sur le quarterback. Vraie réussite, cette signature d'intersaison. Mais voilà, bon, il n'y avait pas une énorme attaque de Denver une fois que Teddy Bridgewater est sorti sur une commotion. Et en attaque, moi, j'ai l'impression que
ces Bengals, ça patine, hein.
Ils vivent beaucoup par les gros gains. C'est-à-dire que Joe Burrow, il a lancé son 12e touchdown de plus de 30 yards. Sachez que c'est le leader NFL là-dessus. Le deuxième, il en a 7 des touchdowns de plus de 30 yards. Lui, il en a 12. Mais. Ils vivent vraiment par ces gros gains et par à-coups, j'ai l'impression.
En attaque, même si elle n'est pas tout à fait structurée de la même manière, sur ce côté vivre par les gros gains, il me rappelle un peu les Seahawks sur certaines années qui ne vivaient que par des big plays de Russell Wilson, qui avaient du mal sur plein d'autres aspects du jeu, qui n'arrivaient pas, comme plein de bonnes attaques, à trouver du rythme en permanence, par jeu court, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et en plus, c'est un jeu en profondeur qui est en difficulté depuis plusieurs semaines, hein, parce que là, ça passe sur une action, mais la semaine d'avant, c'était déjà compliqué. Enfin, l'attaque de Cincinnati, moi, me rassure pas tellement depuis quelques semaines. Hein. C'est
du cas.
Bah, moi, ce sont mes deux mantras depuis le début de la saison avec les Bengals. Je fais que le répéter, c'est que on peut pas faire une saison où on se base que sur ça. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Maintenant, j'en ai un deuxième, c'est les pertes de balles du côté des Bengals. Ils ont pas perdu un ballon dans ce match-là face à une grosse défense. Et le résultat est là. Donc, c'est vrai qu'il faut s'améliorer. Il manquait les deux tackles titulaires pour Joe Burrow, ce qui n'est pas forcément évident pour lui. Mais voilà, ils perdent pas de ballon. Ils gagnent ce match. C'est vrai qu'il faudra être un peu plus constant et un peu plus complet en attaque. Mais on le dit depuis le début, cette équipe, elle est jeune. Maintenant, ils ont toujours la possibilité de gagner la division, ce qui n'est pas rien pour cette équipe-là.
Les Steelers 19, Titans 13, encore une victoire défensive des Steelers, 4 ballons arrachés, les Titans limités à 1 sur 4 dans la zone rouge. Moi, je vous le dis tout de suite, TJ Watt, c'est défenseur de l'année parce qu'il fait gagner des matchs, quoi. C'est-à-dire que là, c'est même plus des stands, des machins, c'est qu'il fait gagner des matchs, quoi, à cette équipe.
Et puis pour le coup, c'est vraiment la défense qui fait gagner les matchs. Et la défense des Steelers, c'est TJ Watt. Clairement. Et puis quand il n'est pas là, ça se voit. Ils sont quasiment invaincus. Je crois, on avait donné la stat la semaine dernière, mais ils ont un très bon bilan quand ils jouent les 4 cartons. Voilà. Après, il y a l'attaque, malheureusement. Ils tombent contre une équipe qui font punt, fumble, interception, fumble en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que TJ Watt, il est incroyable.
Je suis en train de me demander si les mecs qui votent pour le MVP, ils ont juste un vote ou est-ce qu'ils mettent un classement de 5 noms ou un truc comme ça ? Parce que j'allais dire, moi, si c'est un top 5, par exemple, que tu dois donner...
Je crois que c'est qu'un seul. Hein.
J'ai un doute sur le sondage de l'IP. Mais j'allais dire, si c'était une cinquième place, parce que des fois, je crois que c'est en NBA, ils disent machin a eu tant de première place, de deuxième place, de troisième place. Si c'est un top 5, je me demande si moi, il n'aurait pas des points, par exemple, pour le MVP. Hein. Parce que ils ont une attaque.
Oui, pourquoi pas.
Ouais. Il fait gagner des matchs à une équipe qui a 168 yards en attaque. Ils n'existent plus offensivement, les Steelers, quand même, là. C'est dramatique.
T'as raison. Offensivement, c'est compliqué. Effectivement, ils sont portés par cette défense. Le retour de Joe Haden aussi fait du bien. Fait du bien. Il pourrait mériter quelques voix pour le MVP parce qu'effectivement, il est le joueur le plus important de cette franchise. Donc oui, à partir de là, après, bon, souvent, hein, comme on sait, il y a des questions de bilan d'équipe, bilan collectif, et voilà. Bien, mais s'il n'y a pas de play-off au bout, ça paraît compliqué. Mais bon.
Bon, après, il faut dire, ils ont très très bien défendu, on l'a dit. Les Titans sont courageux, mais au bout d'un moment, c'est pareil. Là, il y a beaucoup de blessures. Julio Jones qui est revenu et qui repart aussitôt. Enfin, cette attaque, là aussi, elle est en très, très grande souffrance, hein, par contre.
Oui, elle est en grande souffrance. Après, il y a... Certes, il y a des blessés, on le disait, Derrick Henry, AJ Brown, Joe Jones qui est revenu, qui est reparti. Maintenant, il y a des choses qui me font dire du côté des Titans, notamment les pertes de balles. Je crois que c'est une des équipes qui perd le plus de ballons dans la ligue. Et pour moi, et notamment des fumbles, il y a eu deux fumbles en deuxième mi-temps. Les fumbles, c'est beau ne pas être AJ Brown. Normalement, un fumble, tu es un receveur en NFL, tu es un running back en NFL, c'est une des premières qualités que tu dois avoir. Et même le plus mauvais, il est censé l'avoir. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà, être limité en attaque, si en plus il y a des pertes de balles qui s'ajoutent, ça commence à devenir très compliqué. Et pour moi, ça, ce n'est pas l'effet des blessures.
Ouais, je suis juste là-dessus, je suis d'accord avec Lucas, c'est que ça commence maintenant à faire 6 ou 7 semaines qu'il y a un tas de blessés en attaque. Il y a un moment où aussi Tannehill devrait commencer un peu à trouver d'autres solutions malgré tous les blessés, et le niveau de l'attaque devrait un peu progresser malgré les blessures. Sauf que depuis plusieurs semaines, le niveau de l'attaque est toujours le même, il est en difficulté. Donc là-dessus, c'est peut-être ce que je trouve un peu dommage par rapport à ce que Tannehill montrait sur ses 2-3 premières saisons à Tennessee, quoi.
Et il joue 49ers, on l'a dit jeudi, Dolphins et Texans. Sachant les Colts, la dynamique des Colts, ils ont un match de moins avec le tiebreaker, il faudrait qu'ils en perdent 2 sur 3, c'est possible.
Ouais. Pour la petite stat, Ben Roethlisberger a dépassé Philip Rivers pour le 5e plus gros total de yards à la passe de l'histoire de la NFL. Ça veut dire qu'il a quand même lancé quelques yards, hein, Ben Roethlisberger, dans ce match. Voilà, c'est juste pour dire que évidemment Ben Roethlisberger est bien plus Hall of Famer que Philip Rivers. Tous les jours de la semaine, il passe en moonwalk, il lui tape sur l'épaule et il rentre avant lui. Bills 31, Panthers 14. C'est pas encore impressionnant, mais c'est un peu plus équilibré pour Buffalo. 119 yards au sol, 210 dans les airs. Est-ce que c'est suffisant pour se rassurer? C'est une équipe où j'ai l'impression vraiment on tâtonne depuis des semaines et des semaines, voire depuis le début de la saison. Donc, c'est un peu toujours la question. Est-ce que ça rassure, Lucas ?
Rassuré, non, parce que ce sont les Panthers. On sera rassuré la semaine prochaine quand ils joueront les Pats et qu'on verra si c'est mieux qu'il y a 2 semaines. Maintenant, on l'a dit la semaine dernière, il fallait faire le travail, ils l'ont fait. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ai vu que McDermott a essayé un peu plus de mettre en place le jeu au sol parce qu'on l'a dit, ça va être une des clés pour leur fin de saison et leur potentiel play-off. Donc voilà, Singletary a été un peu meilleur. Ça a été un match presque un peu test ou en tout cas un match un peu laboratoire tant ils ont été dominants, donc rassurés, pas totalement, il faudra valider la semaine prochaine, mais c'est toujours mieux de gagner et de gagner sereinement.
Raphaël ?
Écoute, grosso modo, comme Lucas, j'ai pas envie d'en parler, mais c'est que oui, je ne vois pas trop quoi ajouter.
Après, on va en reparler largement jeudi, puisque ce sera l'affiche de la semaine, le Bills Patriots, qui sera décisif. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils finissent devant les Patriots encore. Hein. Voilà, c'était les Panthers en face, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais il n'y a rien en attaque côté Panthers. Hein. Cam Newton, c'est déjà un, c'est plus Superman. Deux, il n'y a pas grand-chose autour. Donc là, face à la défense des Bills, même son trade à Davis White, ce n'était pas trop compliqué.
Je ne sais pas si vous avez vu l'image de… J'y pense parce qu'on parlait de quarterback du côté des Panthers. L'image d'après-match où Matt Rhule est allé serrer dans ses bras et parler longuement avec Mitch Trubisky. Voilà, je dis rien. Je dis ça.
Ouais, mais attends, il ne l'a jamais coaché. Si.
Bah du coup je sais pas, mais en tout cas ils avaient l'air de beaucoup se parler, donc bon.
Ok. Ah bah, et c'est le pas de côté supplémentaire de l'année prochaine, ça.
T'imagines?
Ah là là,
Bridgewater, Darnold, Trubisky, quoi, le truc.
Mais en fait du coup tu fais que baisser d'ailleurs. À part si Trubisky se révèle meilleur que Darnold, oui.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas impossible.
Faire pire que Newton, c'est difficile en ce moment, les gars.
Oui, c'est vrai. Mais là, c'est…
Oui.
T'imagines… Là, quand on parle souvent de la… C'est quoi la quarterback zone la...
Ah, enfin, le purgatoire des quarterbacks.
Le purgatoire, voilà. Ouais. Là, quand t'enchaînes Bridgewater, Darnold, Newton, Trubisky, il y a ta photo dans le dictionnaire à côté de la définition. Hein. Ravens 30, Packers 31. Quel match de Tyler Huntley ? 28 sur 40, 215 yards, 2 touchdowns, 13 courses pour 73 yards et 2 touchdowns. Un seul punt pour les Ravens dans ce match, c'est pas mal pour un joueur non drafté contre une défense du top 10.
Ouais.
Une défense du top 10. Hein. Donc, Raphaël, impressionné par la doublure de…
Ouais,
de
forcément, comme tu dis, vu le contexte, tout ça, sortir un match pareil avec une équipe de Baltimore en plus qui a plein de blessés sur la ligne offensive, qui a plus ses coureurs numéro 1 et 2. Enfin, donc vraiment, il est allé chercher le match… avec ses qualités, donc ouais, gros match, clairement de sa part. Je regrette même presque qu'il ne lui ait pas donné totalement le ballon sur la dernière deuxième tentative de conversion à 2 points, sur une petite course appelée, designée, j'aurais presque trouvé ça plus intéressant. Mais,
tu rappelles un truc en effet, que j'aurais dû préciser peut-être dès le début, la dernière tentative à 2 points, puisque les Ravens sont marqués en fin de match, et s'ils ont un point de moins que les Packers, c'est parce qu'ils n'ont pas pris l'extra point. Ils ont tenté de convertir à 2 points pour gagner. Est-ce que ça se tentait, Lucas ? Ils étaient plutôt chauds et Huntley aussi, après tout.
Ouais, mais non. J'étais convaincu, c'est la semaine dernière qu'ils font contre les Steelers.
Il y a deux semaines.
Il y a deux semaines où ils font contre les Steelers. Je suis convaincu à ce moment-là parce que c'est une erreur de. C'est un problème de. Comment dire ? Le jeu est bon, il y a simplement une petite erreur technique qui peut arriver. Malheureusement, ça arrive au mauvais moment, mais ils auraient très bien pu repartir avec la victoire face aux Steelers. Là, certes, c'est Aaron Rodgers en face, mais la défense vient de faire un stop. Au bout d'un moment, alors oui, il y a beaucoup de blessés aussi, notamment du côté du backfield défensif et ça peut poser souci, mais ils étaient mieux au bout d'un moment. J'ai envie de dire aussi, est-ce qu'on ne fait pas un peu confiance à la défense? Là, j'ai l'impression, et moi, si je suis défenseur des Ravens, je ne le suis pas, mais je me dis, on ne nous fait pas confiance. Donne-nous la chance de vous montrer qu'on peut gagner le match. On fait confiance qu'à l'attaque, qui certes était un peu meilleure dans ce match-là, mais qui n'explose pas tout, qui n'est pas l'attaque des Chiefs, notamment, ou par exemple. Mais voilà, elle me pose un peu plus question, celle-là, que celle d'il y a deux semaines. Du coup,
maintenant, j'imagine Lucas avec un casque trop grand pour lui en plein milieu du terrain dans la défense des Ravens.
Oh, il n'y aura pas que le casque trop grand.
Il apparaît au moment où il y a le snap, tu sais, et là, il y a un mec qui vient le couper en deux.
Il a peut-être sa chance, hein, parce que vu le nombre de blessés dans le backfield défensif de Baltimore, parce que faut avouer qu'en plus, Baltimore joue avec plus de cornerback, plus de safety, enfin, tout le monde était un peu à côté. Pour le coup, ça va étonner, mais je rejoins plutôt Lucas. Je ne suis pas convaincu par cette conversion à deux points. Autant il y a deux semaines, comme il le dit, face à Pittsburgh, ça me semble logique parce qu'il reste 5 secondes à jouer. Donc en gros, tu l'as réussi, c'est gagné. Il venait d'avoir dans ce match-là, c'est là où il avait toutes les blessures de ses cornerbacks, tout ça. Ils sont sur les rotules, ils décident d'en finir. Allons-y. Mais là, effectivement, vu la dynamique, je ne suis pas hyper convaincu parce qu'en plus, derrière, même s'il l'a réussi, il mène d'un point, mais il reste encore 48 secondes à jouer. 48 secondes, oui. Aaron Rodgers, il est capable de se placé pour un field goal, hein, en 48 secondes. Donc, je ne suis même pas sûr qu'en plus, tu es allé en prolongation derrière. Donc, bon, je ne sais pas. Ouais, là, j'avoue que là-dessus...
Oui, très bien. Les Ravens, donc, avec Tyler Huntley, je rappelle qu'il a 23 ans, qui est exclusive right free agent à la fin de l'année. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent négocier, il ne peut négocier qu'avec sa propre équipe. C'est un drôle de concept, d'ailleurs, exclusive right free agent, puisqu'il y a free dedans, mais il n'est pas vraiment libre. Les Packers menaient 31-17 quand même, hein, donc il y a eu belle remontée, encore une fois. Les Packers qui sont complets en attaque, qui ont assuré l'essentiel, j'ai pas l'impression, encore une fois, même si leur défense a été un peu débordée, ils ont assuré le boulot, c'est une équipe favorite. Il y a des fois où la défense est un peu moins bonne, mais l'important, c'est de gagner, quoi.
Oui, et puis surtout cette semaine, quand on voit les Cardinals qui perdent, on voit les Buccaneers qui perdent, ils passent premier. Et maintenant, ils sont, comme ils disent les Américains, ils sont dans le siège du passager et ils n'ont plus qu'à faire le boulot. Alors, ce n'est pas facile, mais ils peuvent finir le travail.
On fait pas tous les scénarios en playoff encore parce qu'il y a toujours 28 équipes, je crois, officiellement en lice.
Pour les Ravens, la semaine dernière, vous m'avez un petit peu rayonné, messieurs, je l'ai encore en travers de la gorge, mais les Ravens, ils sont 8e, je crois, là, en AFC. Si Lamar Jackson ne revient pas, attention, ils sont pas sûrs d'être qualifiés. Hein.
Ah non, mais moi, je me suis dit que je ne parle plus de scénario playoff avant la semaine 17, de toute façon. Ouais, maintenant, il y a trop de possibilités, trop de matchs. Donc, on va attendre. 49ers 31, Falcons 13. En voilà une autre équipe, d'ailleurs, qui est dans la course au playoff qu'on n'attendait pas à un moment de l'année. 5 passages dans la zone rouge, un seul touchdown pour les Falcons. En attaque, les 49ers sont déroulés 400 yards. Bon, match efficace. Encore une fois, là, les Niners sont à fond dans ce qu'ils font, hein, maintenant. J'ai vu d'ailleurs, alors j'aurais dû l'annoncer tout à l'heure, mais j'ai vu, comment il s'appelle, Ross Tucker, qui a un podcast américain, qui disait sur Twitter, les Colts sont les 49ers de l'AFC. Mais donc, du coup, là, on parle. Sont les... enfin, en te... dans le style, non
bon, alors là, non. Enfin, je ne suis pas du... enfin... Si c'était dans le côté dynamique, positive,
il y a ça aussi,
pas,
ouais, je pense. Ouais.
Dans le style, 49ers, t'as Kittle, Ayuk, Deebo Samuel.
C'est vrai.
Sont où ces mecs-là à Indianapolis?
Alors, plus dans la dynamique d'une équipe qui est quand même pas facile à prendre en ce moment dans sa conférence.
Ouais, peut-être plus. Ouais, c'est ça, qu'à la main chaude totale. Ouais. Et ouais, là-dessus, ouais, plutôt. Ouais.
Bon. En tout cas, encore une fois, il n'y a pas des masses de choses à décortiquer dans le style, Lucas, parce qu'ils ont fait leur boulot, encore une fois, décisif dans les derniers mètres en défense. Et puis en attaque, maintenant qu'ils sont revenus à leurs fondamentaux d'il y a 2 ans, du coup, quand ils jouent le Super Bowl, bah, c'est les Niners qu'on connaît, quoi.
Non, ils ont des certitudes, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ils ont des certitudes des deux côtés du terrain. Alors ça ne va pas gagner tout le temps parce que, bah, notamment face à Seattle il y a quelques semaines, il va y avoir des pertes de balles et tout ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas encore parmi le haut du panier. Mais en tout cas, ils ont des certitudes des deux côtés du terrain, comme tu le disais. Et ils vont s'appuyer sur ça et ils vont embêter pas mal, plus d'une équipe en tout cas.
Les Falcons, bon, eux, on savait, hein, c'est limité. Ouais. Ça passe contre les meilleures équipes, c'était meilleur en face. Ça passe contre les moins bonnes équipes.
Oui, c'est ça.
C'était meilleur en face. Giants 6, Cowboys 21. Mike Glennon, on parlait de quarterback interchangeable, a lancé 3 interceptions, dont la 10e de l'année pour Trevon Diggs. Dans ces conditions-là, les Cowboys n'avaient pas grand-chose à craindre. Leur défense est excellente, bon, ça, on le savait. L'attaque, ça reste poussif quand même. Ça reste poussif.
Ouais, c'est poussif du côté de Dak Prescott depuis quelques semaines. Là. Ils n'arrivent pas trop à retrouver le jeu au sol. Elliott, Pollard, bon, c'est un peu en difficulté.
Si vous voulez de la stat pour étayer, Dak Prescott a aucun match à plus de 2 touchdowns depuis qu'il est revenu de sa blessure. Avant sa blessure, il avait 5 matchs avec au moins 3 touchdowns, 3 ou 4 sur 5 matchs. Donc, qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas si tu vois un truc, Lucas, dans les appels de jeu ou dans ses jambes ou quelque part ?
Je sais pas, il a été blessé. J'ai l'impression que c'est un peu le tournant de cette saison avec lui. Il a été blessé. Je sais pas. On dit un petit peu, il y a pas cette rumeur, mais les analyses qui disent que peut-être qu'il aurait un peu plus peur, un peu plus d'appréhension. Lui, forcément, il dit que non. Et certains disent que c'est peut-être même inconscient, difficile d'affirmer ça. Force est de constater, en revanche, que, comme tu le dis, moi, j'ai l'impression que depuis cette blessure-là, il y a une vraie différence. Alors oui, il y a eu pas mal de blessés et tout ça. Maintenant, la seule chose que j'ai envie de dire sur Dallas, c'est que, peut-être à tort, mais je me dis toujours que j'ai plus confiance en une attaque qui a été bonne et qui peut le redevenir plus rapidement qu'une défense qui, quand elle est mauvaise, j'ai du mal à la voir rapidement devenir bonne. J'ai l'impression que ça prend plus de temps. Une attaque, je me dis qu'en 2-3 semaines, elle peut redevenir comme elle l'a été. J'ai peut-être tort, mais c'est la seule chose qui me donne un peu confiance pour Dallas parce qu'eux, ils visent la victoire finale.
C'est un peu les Chiefs dont on parlait au début de l'année, un peu quoi. Le côté la défense tient le coup, ouais. Et puis il faudrait que l'attaque revienne. Si vous cherchez. Oui, Raphaël.
Non, j'allais dire juste Dan Quinn, qui est pas loin d'être la meilleure recrue coaching de l'intersaison, hein, parce qu'il a quand même. Alors oui, il y a la draft de Micah Parsons qui fait beaucoup de bien, mais je pense qu'il a eu aussi sans doute son mot à dire dans cette draft-là. Donc potentiellement, quelle était sa marge de choix là-dedans, je ne sais pas, mais je pense qu'on a un peu consulté le coordinateur défensif là-dedans. Quand tu vois la transformation de la défense de Dallas entre l'an dernier et cette saison.
En parlant de recrutement de coaching, Joe Judge, on est à 10-20, je crois, hein, de bilan. Et enfin, petite dernière note, hein, si vous cherchez le rêve américain, il s'appelle Mike Glennon, 32 millions de dollars de gains en carrière. Je pose ça là, comme on dit. Mike Glennon, hein, ce dernier temps, bah, il a démarré 3 matchs hein, quand même pour les Giants cette année, pour un bilan de 0 victoire pour 3 défaites. Il a démarré 5 matchs pour les Jaguars l'an dernier, pour un bilan de 0 victoire pour 5 défaites. Il a démarré 4 matchs pour Chicago en 2017, 1-3. Des matchs pour Tampa, 1-4 en 2014.
En plus, c'est marrant parce que du coup, il va faire le pompier dans les mauvaises équipes. Exactement. C'est assez drôle. C'est
exactement. Donc voilà, il a jamais connu un bilan positif, évidemment, sur une saison où il démarre. Les Bears 9, Vikings 17. Les Vikings qui ont gagné tranquillement, c'est presque une surprise. Les Bears ont marqué leur touchdown à la dernière seconde quand ça ne servait plus à rien. Mais il n'y a pas non plus de surprise sur le fait qu'ils n'ont pas été impressionnants, j'ai envie de dire. Parce qu'ils ont gagné, hein, mais les Bears ont beaucoup perdu aussi. Les Bears ont perdu 3 ballons, ils ont raté 3 quatrièmes tentatives, ils ont raté un field goal, ils ont eu 9 pénalités. Donc il faut ça pour que les Vikings gagnent sans trop se faire peur.
C'est tout, ouais. Ouais, toujours la même chose. Ils se mettent au niveau de l'adversaire quasiment. Et là, en l'occurrence, l'adversaire a réussi à être encore plus mauvais que, même s'ils ne font pas un mauvais match, mais je crois que Kirk Cousins est à moins de 100 yards lancés. C'est
un match minuscule.
Ça pique 87 ou 85, ça pique les yeux. Bon, ils gagnent un match du lundi soir comme ça. C'était le match en prime time dont j'avais peur la semaine dernière. On ne l'avait pas eu avec les Bears, on l'a eu cette semaine.
Cousins lance 87 yards alors qu'en face, la plupart des cornerbacks et safety, notamment Eddie Jackson, tout ça, sont absents. Enfin, je veux dire, c'est côté Vikings, c'est vraiment, même dans un match comme ça, que normalement, qui doit être simple, ils sont incapables de se le mettre. De se le rendre encore plus simple, quoi. Je veux dire, ça, sincèrement, ça doit sortir en 40-0 et merci, au revoir. Enfin, ça.
Bon, y a des problèmes, on l'a dit, de partout chez les Bears, mais Justin Fields continue, mine de rien, à progresser, statistiquement en tout cas, c'est de plus en plus productif.
Oui, et puis il y a des choses sur lesquelles s'appuyer. Alors, il a une équipe autour qui fait que, il a des limites qui font que, mais il y a des choses sur lesquelles s'appuyer. À l'inverse, c'est la deuxième pique que je mets, mais à l'inverse des quarterbacks dont on va parler très prochainement, quand je vois les deux matchs qui nous restent.
Oh, shots fired, ça tire à balles réelles. Dolphins 31, Lucas qui fait des signes de main.
Il s'est pris dans Planète Rap.
Ouais, non, mais c'est pour ça qu'on fait pas. Les gens nous disent pourquoi vous faites pas les trucs en direct sur Twitch et tout, si vous voyez l'ambiance et comment ça se passe en coulisses. On peut pas se permettre. Donc Dolphins 31, Jets 24, les Dolphins qui continuent leur tournée des losers. Hein, ça régale contre tous les losers de la ligue depuis quelques semaines pour Miami. Et pourtant, ça n'a pas été facile. Ils ont été menés. Ils ont gagné grâce à un excellent Duke Johnson, figurez-vous. Au total, ils ont gagné 183 yards au sol. Tagovailoa a fait quelques passes pour boucler ça. Mais en effet, ce n'était pas brillant vu la concurrence. Lucas, on te laisse dégainer.
Bah, il y a eu deux drives du côté des Jets. Comme tu le dis, ils menaient. Et puis, encéphalogramme plat. Après, il n'y a plus rien. Il y a une énorme domination de la ligne défensive des Dolphins face à la ligne offensive des Jets. 6 sacks sur Zach Wilson. Et puis Zach Wilson, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vois pas de choses qui me font dire... cette saison c'est voilà, j'ai mis assez de tirs, donc je vais vous laisser éventuellement soit non, mesurer, soit
il y a un truc qui est significatif. Je sais plus pour quelle équipe là tout à l'heure on parlait de confiance dans le quarterback. Mike LaFleur, le coordinateur offensif, il a fait c'est quoi tous les trick plays qu'on a pour qu'il touche pas le ballon, en fait. Ok, on va tous les utiliser parce qu'il y a eu du trick play, hein. Il a été imaginatif et tout, mais tu te dis, on sent qu'il n'a pas super envie que le mec lance le ballon, là.
Et puis, quand tu es obligé d'en arriver là, alors soit tu es un génie parce que tu le fais, mais soit aussi c'est parce que bon, on a des limites et il va falloir qu'on invente des choses. Ça me rappelle les Patriots d'il y a 2 ans, quand Brady était dans sa dernière année, qu'il n'y avait aucun joueur qui était capable avec Brady de faire de bonnes choses. Et donc, ils essayaient d'inventer McDaniels, essayaient d'inventer des choses pour gagner des yards.
Attends, ça fait donc 2 matchs de suite sans touchdown à la passe pour Zach Wilson. Et donc, il a lancé un grand total de 2 touchdowns sur les 6 derniers matchs.
Deuxième choix de la draft.
Et ouais, c'est beau.
Alors, je veux bien qu'il soit mal entouré, tout ça, que Peyton Manning en 98, tout ça, mais...
Ah non, c'est compliqué.
C'est un peu flippant quand même.
Ah, c'est flippant. C'est flippant à tout niveau, mais c'est pas la seule chose flippante à New York, hein, parce que... les Jets, qui d'habitude défendaient globalement bien le sol, se font exploser au sol. Enfin,
c'est vrai.
Il n'y a quand même pas grand-chose qui fonctionne cette année à New York. Donc, et on sait la propension. On sait comment ça peut vite partir en cacahuète à New York. Donc, Salé, il va devoir se...
Ouais, c'est vrai que c'est pas... Est-ce qu'ils sont en pire position que les deux équipes dont on va parler là ? Il y a débat, hein.
Il y a débat. Pire position que Houston, je suis même pas sûr. Aujourd'hui, maintenant, je vais peut-être regretter totalement ce que je vais dire. Je ne sais pas si je prends pas Davis Mills plutôt que Zach Wilson.
Je pense aussi. Alors justement, on va y arriver. Jaguar 16, Texan 30. C'était le match de la draft aussi, hein, puisque c'était des quarterbacks draftés face à face. Victoire assez nette des Texans. Et Davis Mills, qui en effet avait sincèrement l'air du meilleur rookie sur le terrain cette semaine, dans ce match-là à minima. Est-ce qu'ils ont quelque chose pour la suite pour Houston ? Parce que, en fait, je vais vous dire ça. Moi, la semaine dernière, j'avais vu Davis Mills a fait un match correct et je voyais les rumeurs sortir sur des sites ricains. Ils vont le garder l'année prochaine, comme ça, ils draftent du lourd partout autour. Et je me disais, ouais, bon, ça va, ils ne vont pas s'enflammer pour un match, c'est un mec du 3e tour. Et je vais vous dire qu'après ce match, je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? S'il n'y a pas de quarterback qui est si fort que ça, puisque ça a l'air d'être la tendance qu'on entend de la team draft de TDA qui nous dit, il n'y a pas d'énorme quarterback premier tour.
Comme Trevor Lawrence ou Zach Wilson, c'est ça ?
Voilà, par exemple. Ce Davis Mills, il était en effet plutôt honnête sur ce qu'il a eu à faire. Sur les débuts de match, quand c'est scripté en plus et tout, il exécute proprement. Bah, pourquoi pas, quoi.
Mais je crois que c'est un peu le sens de ce qu'on avait dit la semaine dernière avec Lucas, hein, d'ailleurs, que ça ne nous semblait pas incohérent pour Houston de repartir l'an prochain avec Mills, parce qu'ils sont tellement loin d'être une... Ils ne sont vraiment pas une équipe à un quarterback prêt de faire quelque chose. Donc, à partir de là... Bon, bah, construis jusqu'à trouver ton quarterback qu'il te faut. Et ça peut l'être parce que troisième tour, il y en a eu récemment des quarterbacks pris au troisième tour qui ont réussi. Tu sais pas, on en trouve, quoi.
Russell Wilson, c'est un
troisième tour. Russell Wilson, notamment. Ouais. Cousins, je me demande s'il n'est pas troisième.
3 ou 4, ouais, quelque chose comme ça.
Bah, tu vois, enfin, je veux dire, si Houston, dans cette période de transition avec Watson, il se trouve un quarterback pendant quelques années du niveau de Cousins, je pense pas qu'il crache tout de suite dessus. Donc,
c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, je trouve, il y a une belle maîtrise en fin de première mi-temps, par exemple, pour aller chercher le field goal. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour un joueur qui a très peu de matchs dans une équipe très mauvaise. À chaque fois, on dit les autres, ils sont mal entourés. Bon, Davis Mills, il peut pas dire qu'il est super bien entouré, a priori. Il se débrouille avec Brandin Cooks, mais pas beaucoup plus. Donc moi, je suis plutôt convaincu. Je trouve que c'était des belles leçons de ce match. Après, bon, pour le reste, voilà, l'attaque des Jaguars, c'est un seul touchdown face à une des pires défenses de la Ligue. Donc, il n'y a pas eu d'effet viré Urban Meyer, hein, clairement. Il y a eu un peu plus de jeu au sol. Mais c'est vrai que c'est resté assez limité. Juste, à moins que tu aies un truc à rajouter sur les Jaguars, Raphaël.
Non,
j'allais dire, par contre, pour Davis Mills, il faut peut-être quand même commencer à chercher quelque part l'effet Tyrod Taylor. Parce que Tyrod Taylor est dans l'effectif des Browns. Baker Mayfield fait un bon début de carrière en relais. Tyrod Taylor se fait percer un poumon par un médecin de l'équipe. Bam, Justin Herbert explose. Et là, Tyrod Taylor se fait sortir. Davis Mills a l'air d'un rookie convenable. Donc, si vous voulez drafter, prenez d'abord Tyrod Taylor à la free agency. Ce serait mon conseil. C'est un très bon incubateur de talent, Tyrod Taylor. Petite note quand même avant de passer au top flop. On vous rappelle qu'on enregistre le mardi soir et que exceptionnellement, à cause des reports Covid, il y a deux matchs dans la nuit de mardi à mercredi, donc celle qui arrive pour nous. Rams, Seahawks, Eagles, Washington. On s'occupera des débriefs de ces matchs dans l'émission de jeudi. Donc, vous n'aurez pas trop longtemps à attendre pour les entendre. Voilà pour la petite note de service. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine. Vas-y Raphaël, c'est parti pour le top.
Eh ben écoute, moi c'est un peu un top pour les coachs vétérans de la ligue, on va dire ça, vétérans en nombre d'années. Et je pense notamment à Mike Tomlin et John Harbaugh qu'on a parfois critiqué par le passé parce qu'ils ne sont pas toujours allés au bout alors qu'ils avaient des grosses équipes. Des fois, il y a eu des choix un peu conservateurs, des choix un peu étonnants, mais in fine, quand tu compares avec tellement de franchises défectueuses dans la Ligue, je pense aux deux équipes de New York, aux Texans, aux Jaguars, et je trouve que ça montre aussi à quel point le coach est quand même fondamental pour créer quelque chose dans une franchise. Parce que là, quand tu vois les blessures qu'il y a du côté de Pittsburgh et de Baltimore, franchement, c'est des équipes qui ne sont jamais ridicules. Enfin, quand tu vois avec le nombre de blessés ce que Baltimore fait face à l'équipe numéro 1 de la NFC, enfin, pour moi, vraiment, ouais, ça montre quand même l'importance qu'est, avant même de penser à ton quarterback, avant même de penser à truc, de trouver le type, le coach qui est capable de faire du ciment, de faire du lien. Et donc, je pense que je sais qu'il y a beaucoup de fans des Steelers, des fois, des Ravens, qui critiquent un peu leur coach parce qu'ils sont énervés après un résultat, ils sont énervés après un choix, mais je crois qu'ils ne mesurent pas totalement la chance que c'est d'avoir des coachs aussi solides, en fait, en NFL.
Après, moi, je vais dire, j'ai souvent critiqué Tomlin. Je trouve qu'il pourrait avoir un plafond un peu plus élevé avec les effectifs qu'il a eu à un moment, mais il a en effet un plancher très très haut.
Et c'est ça, il a un plancher haut, quoi. Enfin, ouais. Je veux dire. Et pour certaines franchises défectueuses, enfin, moi je sais, enfin, sincèrement, je suis les Jaguars, j'envoie deux premiers tours pour récupérer Mike Tomlin en coach et construire quelque chose. Enfin,
ah ouais, c'est chaud là.
Mais non, mais parce qu'il faut un moment, il te faut un coach sérieux, un constructeur, et c'est des équipes. Et tous les deux ans, ils changent de coach, ils trouvent pas les bons, et il y a un moment, bah, essaye de piquer un bon, en fait. Je sais pas, tu vois. Enfin.
Moi, j'ai envie de te dire, même sans aller dans la reconstruction, mais tu donnerais un coach solide comme ça aux Vikings, tu vois, qui les mettrait en ordre de bataille. Il serait beaucoup plus haut, hein, il serait beaucoup plus consistant. Lucas, ton top.
Ben moi, je vais abonder dans le sens de Raph d'une manière un petit peu différente. Mon top, c'est Dennis Allen, le coordinateur des New Orleans Saints, qui a pris la place de Sean Payton sur ce match face aux Buccaneers parce que Sean Payton avait le Covid. Et c'est lui qui a appelé les jeux, c'est lui qui a tout fait dans ce match comme un head coach, tout simplement. Il a très bien fait, on en a parlé, on ne va pas revenir dessus. Il a délivré une super performance en tant que coach. Et je pense aussi que ça vient du fait que, ben, comme le disait Raph, Sean Payton, qui fait partie des coachs, en tout cas, moi, je le mets dans la catégorie des coachs dont vient de parler Raph, c'est-à-dire des gens qui sont capables de bâtir, de créer une identité dans une franchise, d'avoir un ciment. Et ça va sur les joueurs, ça va sur le practice squad et ça va aussi sur les coordinateurs qui sont autour. Alors forcément, on s'entoure de coordinateurs de talent, mais aussi on arrive à faire progresser ces coordinateurs et on le voit sur les coachs de légende. Et quand on voit ce qu'est capable de faire Dennis Allen avec le matériel qu'il avait, certes, ça a été très impressionnant face à une des meilleures attaques de la Ligue, si ce n'est la meilleure attaque statistiquement. Donc voilà, c'est à la fois un top pour lui, à la fois un top pour Sean Payton, et peut-être qu'on ne le reverra pas à New Orleans l'année prochaine.
Allen qui a déjà été head coach aux Raiders de 2012 à 2014. Après, il peut aussi faire partie de ceux qui avaient besoin d'une deuxième chance.
Oui, et pas le contexte le plus facile.
Clairement. Clairement, à l'époque, pas évident. Moi, mon top, c'est une action, mais c'est la réception à une main de DJ Moore sur une conversion à deux points pour les Panthers, qui était un petit bijou, mais je pense que comme c'est une conversion à deux points, c'est peut-être aussi moins mis en avant. Ça aurait été un touchdown, je pense que ça aurait beaucoup plus tourné, et je vous la conseille si vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, la chaîne de la NFL ou trucs comme ça. Un petit bijou, cette réception à une main. Puis j'en place une petite pour Davis Mills quand même. J'étais sur ce Texan Jaguar sans trop d'espoir pour le résumé. Il m'a mis quand même un peu de baume au cœur, donc je suis content. Je me dis peut-être, je pourrais dire plus tard, j'ai vu Davis Mills quand il était comme ça.
J'ai vu le match fondateur de sa légende.
Quand il était tout petit, et maintenant il gagne des titres avec Houston, et j'étais là. Moi, je regardais quand il jouait les Jets ou les Texans, j'étais là. Lucas, allez, vas-y, Lucas, on te laisse commencer pour les flops, parce que c'est toi le sniper aujourd'hui.
Moi, le sniper, bah, du coup, je ne vais pas être très original, mais pour moi, c'est Zach Wilson et Trevor Lawrence. Allez, on les met tous dans le même sac, messieurs. voilà, on fait un tarif groupé. Vous reprenez tout ce que je viens de dire, toutes les piques que j'ai lancées depuis le début de l'émission, parce que pour moi, c'est pour un premier et un deuxième tour. Voilà, il n'y a même pas de. On n'a pas beaucoup parlé de Trevor Lawrence, par exemple, mais il a un drive pour gagner le match, par exemple, dans ce match contre Houston. Il ne le fait pas. Il n'y a pas de moment signature, comme on peut le dire, qui est une traduction un peu pas vraiment très bonne de l'anglais, mais qui fait dire qu'il y a quelque chose, on voit quelque chose. Alors, ils l'ont eu certainement à la fac, et c'est pour ça qu'ils sont là. Malheureusement, la fac, moi, je ne la regardais pas attentivement, donc j'en vois toujours pas.
D'accord. Raphaël.
Oui, non, pardon, ça m'a fait perdre le fil de ma pensée. Donc, je te laisse faire ton flop parce qu'il faut que je le retrouve.
D'accord, Raphaël, il a trouvé un collègue qui aime pas la fac, qui a médit sur la fac, il était hypnotisé.
Non, c'est pas ça, c'est juste que je la suis pas attentivement, donc je peux pas affirmer des choses sur leur passé. Donc,
je te rejoins complètement. Hein. Moi, j'ai pas vu Trevor Lawrence et Zach Wilson jouer, et ça fait à la fac, et ça fait 15 semaines que je me dis, mais vraiment, vous êtes sûr, il n'y a pas eu une inversion là. D'ailleurs, ceci étant dit, remarque sur Davis Mills, on m'a fait remarquer dans la rédaction, je crois que c'est Victor Roulier qui m'a dit qu'il était recrue numéro 1 au lycée, mais qu'il a été très blessé en fait quand il était à la fac. Donc voilà, il y avait visiblement un talent qui était déjà là, même s'il a été sélectionné plus loin. Écoute, mon flop, du coup, Raphaël, si tu me laisses commencer. Alors, je préviens, j'ai pas de haine contre lui ou quoi que ce soit, c'est juste que ça m'a fait rire. Alors, c'est pas vraiment un flop, mais c'est la rage de Tom Brady dans la défaite que j'ai trouvé quand même assez chimiquement pure. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que vraiment, moi, j'étais avec lui. C'est-à-dire que j'ai vécu probablement ma pire journée de fantasy football. Quand je me suis réveillé lundi matin, j'étais comme lui, tu vois. Genre, j'aurais fracassé la tablette pareil, j'aurais insulté mon adversaire pareil, tu vois. Donc voilà. Donc, moi, je me sentais vraiment avec lui et j'ai rien contre. Ça fait partie du personnage et j'aime bien qu'il y ait des personnages en NFL, donc je n'ai absolument aucun problème avec ça. Mais ça me fait trop rire qu'il soit aussi rageux que ça après tout ce qu'il a gagné et tout. C'est un rageux de base, comme Michael Jordan, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Ça fait partie de leur personnalité, mais ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire qu'il soit à insulter le banc adverse, à casser des tablettes et tout. Enfin, et je t'ai dit, moi, je me sentais juste... j'étais avec lui, quoi. Je me disais, j'ai quasiment fait pareil avec mon téléphone le matin quand j'ai allumé l'appli Fantasy de Yahoo, là. Et puis, je me suis rappelé que moi, j'avais du carrelage et qu'il n'y a personne qui allait ramasser derrière
et
moi.
Et pas le même salaire.
Et qu'il allait falloir que j'en rachète un. Et j'ai fait non, je ne vais pas le faire. Mais donc voilà. Et j'ai même pas insulté mon adversaire, comme quoi. Raphaël, ton flop.
Mon flop, oui, non, mais en fait, c'était une évidence. C'est les Cardinals. Il y a deux semaines, je fais le malin en disant que c'est l'équipe chaude de la NFC, qu'on leur manque de respect. Ils gagnent avec Colt McCoy, tout ça, c'est bon. Et puis deux semaines après, voilà, les mecs font plus rien. Kyler Murray a l'air largué, tout le monde est largué. Voilà, merci les gars. J'aime bien quand on a des avis comme ça et qu'en deux semaines, on passe pour des abrutis. Ça fait toujours plaisir. Donc merci Arizona. Beaucoup de défaites pour la suite.
Non, mais c'est bien, on va rajouter un truc sur les points de chaîne Twitch parce qu'on avait mis qu'au bout de 30 000 points, les gens ils pouvaient demander à ce que je maudisse leur équipe. Maintenant, on peut rajouter une récompense à 50 000 points où tu t'occupes d'une équipe aussi.
Ouais, bah écoute, allez.
On t'invitera dans le fauteuil, tu pourras maudire des équipes en direct. Et tout ça. Bon, après, c'est très très haut, hein. Faut 30 000 points de chaîne et je n'ai absolument aucune idée de comment les gens peuvent les obtenir. Donc, peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui demandera, mais je ne sais même pas quand. Voilà donc pour l'épisode numéro 465 du podcast Jeune Actu, l'émission qui vous a été proposée par notre partenaire JD Sport. Avec les fêtes de Noël, n'oubliez pas, vous avez encore un petit peu de temps pour aller chercher la collection spéciale Noël de JD pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. On remercie tous ceux qui nous écoutent et on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On remercie Renaud Mest, Genati, Antoine, Greenslot et Bertrand. J'en profite d'ailleurs, quelqu'un a posé la question sur Twitter. Si vous hésitez entre vous abonner à la chaîne Twitch et donner sur Tipeee, vous pouvez préférer Tipeee. La commission est beaucoup moins élevée sur Amazon. Twitch fait partie d'Amazon. Donc, Jeff Bezos se sucre 50% de ce que vous donnez. Tipeee prend 7%. Voilà, je vous laisse apprécier la différence au niveau de la commission. Mais donc, pour ceux qui ont posé la question, je vous le dis. Et puis, en plus, il y a des contreparties cool qui sont physiques sur Tipeee. C'est-à-dire que vous recevez vraiment des trucs, alors que sur Twitch, c'est juste des malédictions, mais je ne garantis pas.
Après, idéalement, si vous avez un abonnement Amazon Prime, on fait les deux. Donne via Tipeee le vrai don et l'abonnement Amazon, vu qu'il existe déjà,
Oui, voilà, parce que vous avez un abonnement gratuit inclus dans votre abonnement Amazon Prime, donc vous pouvez évidemment vous abonner à notre chaîne, c'est toujours ça.
Sans rien payer de plus.
Voilà, vous pouvez faire les deux, évidemment, tu fais bien de le rappeler, Raphaël, mais je donnais cette info-là parce que la question avait été posée, en effet, de gens qui se demandaient lequel était plus avantageux pour nous, donc on est transparent, le plus avantageux, c'est Tipeee. Oui, Raphaël, t'allais...
Non, j'allais faire une blague sur...
Sur Jeff Bezos.
Les gens très riches, Jeff Bezos, mais je vais la garder pour moi.
Sors de ce corps, Philippe Poutou. Allez, et bon, vous remercie de nous suivre. Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TheJeuneActu, en entier @Elvola pour Lucas sur Twitter, @Raphaël_TDA pour Raphaël, @TalinMatei pour moi-même. Toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com, twitch.tv/TDActu, donc aussi si vous voulez vous abonner maintenant pour le fauteuil. Preview jeudi avec Raphaël. À très bientôt. Ciao, ciao.
J'ai jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.